tu veux prendre la parole.
Tu veux d'abord. Merci beaucoup. Écoutez, je vais essayer quand même d'être le plus bref possible parce qu'il y a eu énormément de questions, aussi bien autour de la table que dans le public. Je vais peut-être pas aller dans l'ordre et reprendre ce qu'a dit Joséphine sur la question de la religion et de la foi, parce que je pense que c'est tout à fait fondamental et ça permet une liberté du discours absolument totale. C'est-à-dire que la liberté est la liberté totale, absolue, de croire comme on veut ou de ne pas croire. C'est l'essence de la liberté. La foi est du domaine du privé, donc on ne parle pas ici de la foi. La religion, c'est le domaine social et politique, c'est l'espace public. La foi, c'est l'espace privé. Donc évidemment qu'il y a une différenciation tout à fait fondamentale à faire entre la religion et la foi. Bon. Et ça permet d'évacuer la question de la liberté, bien sûr. Alors, voilà pourquoi je pensais que c'était important de rester sur la question du social, sur la question du religieux, qui ne remet pas la remise en cause, la mise en question, la mise en abîme de l'hégémonie du religieux ne pose pas la question de la foi. Ça n'a rien à voir. Mais donc j'en reviens au religieux. Je me situe dans le discours académique. Donc je n'entre pas dans Dieu a voulu la pluralité des croyances, etc. Le discours académique se situe en dehors de son objet et pas à l'intérieur de mon objet. Donc je ne vais pas parler de l'intérieur du champ religieux, mais de l'extérieur du champ religieux. Ou sinon je suis piégé par mon objet. Donc je refuse d'être piégé par mon objet. Je suis, quand j'ai un discours académique, que j'ai la foi ou pas, c'est autre chose. Mais quand je suis dans le discours académique, je suis en dehors du champ religieux. Que les choses soient parfaitement claires là-dessus. Bon. Donc, cela pose d'ailleurs, puisque vous en parliez, la question de... Vous parliez de la question du religieux, la question de la négociation et de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Est-ce que cette hypocrisie dont je vous parlais, est-ce que ce n'est pas une façon de négocier l'espace du religieux et la norme du religieux dans l'espace public? D'abord, je crois que quand on parle de la question du religieux et de sa place dans l'espace public, ce dont on parle, quand on parle de sécularisation, quand on parle de laïcité, c'est la question de la régulation des instances et de la séparation des instances. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que l'État, l'instance publique, doit-elle être neutre par rapport aux religions au pluriel, ou doit-elle être partie prenante? Qui régule? Qui régule? C'est le religieux qui se régule lui-même. Mais alors on arrive dans le même totalitarisme que le totalitarisme du marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Le néolibéralisme, c'est de dire le marché est capable de s'autoréguler lui-même, on n'a pas besoin des régulations non marchandes. Ce qui arrive au totalitarisme du marché. Si on dit le religieux est capable, le religieux est capable de réguler sa propre tentation hégémonique, est-ce que le religieux est capable de réguler sa propre tentation hégémonique? C'est une question que je pose. Ou est-ce qu'il faut une instance en dehors du religieux pour réguler la tentation hégémonique? Troisième question que vous m'avez posée, qui est tout à fait importante, me semble-t-il. Alors, l'histoire des négociations. Qui négocie et avec qui? Si je reprends la question des femmes, en réalité, sur toutes les questions relatives aux femmes dans le champ religieux, ce sont les hommes qui négocient entre eux le statut des femmes. Mais ce ne sont jamais les hommes qui négocient avec les femmes leur statut. En réalité, on revient à l'anthropologie, et revenons à l'anthropologie structurale, les hommes négocient entre eux la question de l'échange des femmes au sens lévi-straussien du terme. Voilà. Et donc, je veux savoir, quand on parle de négociation, qui vous impliquez dans les négociations? Qui négocie? Je n'ai jamais vu encore une femme, enfin, l'élément féminin, participer à la table des négociations sur le statut des femmes à l'intérieur du champ religieux. Mais si je ne l'ai pas vu, peut-être que je n'ai pas su le voir, montrez-moi autre chose. Enfin, par ailleurs, l'histoire dans le texte. Ce qui m'intéresse comme académique, bien sûr, l'histoire dans le texte, c'est très important. Mais je préfère aujourd'hui, dans le cadre de ce qui nous est proposé comme réflexion, parler du texte dans l'histoire. Pourquoi la question de parler du texte dans l'histoire? Parce que justement, une des outils de la tentation hégémonique, c'est de refuser la question de l'historicité du texte. Vous parlez du Coran, c'est toute la question du Coran incréé. Le Coran est-il créé ou incréé? C'est toute la question du mu'tazilisme contre l'acharisme dans l'islam, hein, totalement. Donc, justement, un des outils de la tentation hégémonique, c'est de refuser l'historicité du texte. Or, on ne peut pas aujourd'hui comprendre la place du religieux dans le politique et dans le social si on ne travaille pas sur l'historicité du texte. Donc, ce n'est pas l'histoire dans le texte qui m'importe, c'est le texte dans l'histoire. Et ce changement de focal, ce changement de perspective est tout à fait fondamental pour essayer de comprendre les modes d'insertion du religieux dans le discours sur le pouvoir et dans le discours sur le politique. Bon. Maintenant, j'ai deux ou trois minutes pour répondre à ce qui a été dit. Donc, Joséphine. Pour la question de Ludovic, je ne sais pas s'il est toujours là. Bon. Mais ça ne va rien, une chose. Est-ce que la démocratie s'inscrit dans le legs chrétien? On peut contester cela. Est-ce qu'elle s'inscrit dans le legs religieux? En réalité, en Occident, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la question des droits humains, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est posée d'une évolution à partir de la Renaissance, qui est une déconnexion, disons, de la religion et de la société. Les droits humains tels qu'on les connaît aujourd'hui, bien sûr, on peut trouver ses équivalents dans toutes les religions, mais quelle est la différence justement? C'est la différence entre l'éthique et le droit. Les religions nous proposent une éthique. Les droits humains tels qu'on les connaît aujourd'hui reposent sur des droits juridiques et non pas sur la conception d'une éthique. C'est-à-dire qu'ils sont inaliénables. C'est un droit, et justement ce sont des droits profanes, c'est un droit, nous disent les philosophes des Lumières, de Locke à Montesquieu et à Rousseau, ce sont des droits naturels, qui n'ont rien à devoir à aucune instance, ce sont des droits inhérents à la condition humaine, et non pas des droits attachés au statut de croyant. Et ça c'est extrêmement important. Donc je crois que, justement, ce qui différencie les droits inscrits dans toutes les religions, parce qu'il y en a, il y a de la morale bien sûr dans la religion, c'est l'évidence, c'est que les droits humains modernes peuvent s'inscrire en dehors du religieux et en dehors de la morale. Je crois qu'on s'est mal pour la question de Myriam, on s'est mal comprise, me semble-t-il, si elle est toujours là. C'est que bien sûr, quand je parlais du droit juridique, c'est le droit de la famille. Bien sûr, vous avez droit à la même retraite ou à la même sécurité sociale. On est bien d'accord. Mais est-ce que vous avez le droit de divorcer de la même façon? Est-ce que vous avez le droit de vous marier de la même façon? Est-ce que vous avez le droit d'hériter de la même façon? Non. Donc, c'est l'égalité juridique, c'est l'égalité dans le droit de la famille. Tant que les femmes seront exhérées carrément, ou alors ne toucheront que la moitié de la part de l'homme. Par exemple, ça dépend des religions. Il y a des traditions d'exhérédation, il y a des traditions de la moitié. Ou quand le droit de divorce sera un privilège de la masculinité, hein, ce qui est le cas dans les droits de la famille qui ne sont pas sécularisés en pays d'islam, on ne peut pas parler d'égalité juridique, bien entendu. Ou quand la tutelle ne peut pas appartenir à la femme, ou quand, enfin je pourrais multiplier les exemples, bien entendu. J'ai parlé aussi de l'exemple du tutorat matrimonial dans le droit malékite, etc., etc. Donc c'est de ça que je voulais parler. Hein. Il y a des droits de fait, effectivement, apportés par la modernité sociale, mais l'égalité juridique n'est pas acquise dans beaucoup de pays. Voilà. Alors, je vais sauter la question de l'identité parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Je vais arriver à la question de la Tunisie. Que nous apprend la Tunisie? Ce qui s'est passé depuis un mois, c'est que tout ce qu'on a dit, il s'est agi d'une révolution moderne, mixte, séculière et démocratique. C'est-à-dire une révolution qui s'inscrit dans la généralité de l'universel et non pas dans la spécificité du religieux. Il n'y a eu aucun mot d'ordre à Tunis religieux. Aucun. C'est ça, aucun slogan religieux. Les slogans ont été démocratie, abat la corruption, abat la dictature, vive la liberté, vive la démocratie. Et donc, on se réinscrit dans un corpus universel de droits humains qui n'est pas anti-religieux. La question n'est pas là, qui est a-religieux. Il ne s'agit pas d'être anti ou pro-religieux, c'est qu'il y a des domaines de la vie civile qui se situent dans le a-religieux. Voilà, hein, et je crois que, et je finirai en disant, en réalité, dans beaucoup de pays, et dans nombre de pays arabes, vous avez aujourd'hui un très gros problème, qui est qu'on ne peut pas faire éternellement le grand écart entre la sécularisation de la vie politique et sociale et l'hégémonie de la norme religieuse. À un moment, ce grand écart se brise, en fait. Et qu'est-ce qu'a montré la Tunisie ? C'est que la réalité rattrape la norme. Et qu'aujourd'hui, c'est la norme qui doit se soumettre à la réalité et non pas la réalité à la norme. Et je crois que ça, c'est une grande leçon. Voilà.